Frédéric Durieux, on est à Voix Nouvelle et vous êtes un des enseignants de Voix Nouvelle. On vient d'assister déjà à des premiers concerts de création. J'ai envie de vous dire, mais quelle est l'impression que vous avez? Parce que maintenant, est-ce qu'on a un peu d'extériorité quand on se trouve dans cette situation-là?
Oui et non. Enfin, on a de l'extériorité en recevant les partitions au début. Puis après, naturellement, on a des contacts un peu différents avec les étudiants. Et bon, il y a des liens qui peuvent se faire. Là, je suis dans les deux concerts où je vais de plus en plus m'éloigner justement de ces rapports. Et je suis en train de regarder plus objectivement, je pense, le résultat final, si tant est qu'on puisse être objectif dans ce genre de situation. Donc après, s'il y a des choses bien, des gens bien, des gens moins bien, oui, bien sûr. Il faut quand même dire que ces stages, ces académies sont extrêmement stressantes pour les étudiants. C'est à la fois très intéressant parce qu'ils travaillent avec des artistes de renom. Je pense à l'ensemble Thaléa qui est vraiment excellent, l'ensemble vocal Xaudi qui est absolument extraordinaire aussi. Donc ils ont cette chance de travailler avec des gens qui en plus été très généreux avec eux, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes. J'ai connu des expériences que je ne nommerai pas où les musiciens sont beaucoup plus distants. Là, il y a vraiment une générosité de la part des interprètes. Donc je crois que ça les aide beaucoup. En même temps, il doit y avoir quelque chose un peu frustrant. À la fois, je pense, pour les interprètes dans un premier temps, parce que ils peuvent se dire, c'est tout ça n'est pas tout à fait abouti, etc., etc. Et de l'autre, pour, je pense, les compositeurs qui ont dû composer relativement rapidement des pièces qui vont quand même durer entre 7 et 12, 15 minutes, et sur lesquelles je pense qu'ils ont sans doute envie de revenir quand même un petit peu, et s'ils avaient été dans une situation plus professionnelle, ils auraient pu avoir un peu plus de temps sur leur projet. En tout cas, ils auraient pu essayer de s'organiser pour. Donc, faut faire la part des choses. Des concerts d'académie, des réalisations d'œuvres qui sont faites comme ça dans les académies. Enfin, moi, on appelait ça des cours d'été quand j'étais jeune. Donc, quand on fait ce genre d'œuvres, c'est vraiment une situation très particulière qui n'est pas la situation que l'on a dans une école, une université, enfin, une école supérieure de musique, et la vie d'un compositeur par rapport à une commande, un lien, un ensemble, etc., etc. Je pense aussi qu'il faut que les gens qui viennent écouter ces œuvres-là écoutent ces œuvres aussi avec quand même assez de distance. Je trouve qu'on attend beaucoup trop d'eux, on les presse. En plus, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de jeunes compositeurs qui sont quand même relativement âgés dans ces stages. Sans doute, je parle par rapport à ma génération où on avait fini relativement tôt, je veux dire, à 25, 26 ans, les études étaient terminées, puis on se lançait dans la vie active, mais on avait beaucoup plus de chance, c'était beaucoup plus facile. Pour les jeunes, c'est incroyablement difficile, hein. D'ailleurs, dans tous les domaines, c'est vraiment très difficile. On leur demande beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de formation, et ce n'est pas toujours évident pour eux. Donc, en tout cas, il faut regarder ce travail pour ce qu'il est. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a, enfin d'écouter plutôt, c'est qu'il y a une très très grande variété de styles. Il y a une très grande liberté de ces jeunes compositeurs. Bon, il y a des choses sur lesquelles moi je suis plus réservé parce que j'ai, disons, un peu de bouteille, à savoir que je pense que trop souvent des jeunes compositeurs ignorent, je dis bien ignorent, ou ont vu en surface la musique plus ancienne. Alors je ne parle même pas du 18e, du 19e, mais c'est quelquefois les œuvres du début du 20e siècle qui n'ont même pas analysé profondément. C'est-à-dire notre lait maternel, notre base, hein, si j'ose dire, si je peux faire une analogie un peu, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Qu'on pardonne, mais il y a un manque de perspective historique. Ça, c'est vraiment dommage. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qu'ils savent faire, que nous ne savions pas faire, notamment avec la technologie, bon, qui est dangereuse parce qu'elle est très chronophage, donc il faut faire attention. Mais ils ont aussi une relation avec les instrumentistes qui est beaucoup plus intéressante, et je pense que les instrumentistes ont aussi une relation, les instrumentistes qui ont envie de faire de la musique contemporaine, ils ont une relation beaucoup plus directe, ils collaborent beaucoup plus, et ça, je trouve ça extrêmement positif. Donc voilà, il y a des avantages, des désavantages d'une période par rapport à une autre, d'une génération par rapport à une autre.
Alors en même temps, je regardais les notes de programme, je vois qu'on n'oppose plus le son et la note et la hauteur, et là je vois plutôt le débat qui se déplacerait ou qui se décentrerait sur la question du son et de la musique. Est-ce que c'est quelque chose de représentatif?
J'ai un nombre de personnes qui me parlent du son et qui apparemment savent ce que c'est. J'aimerais bien aller prendre des cours avec eux, je dois vous avouer, parce que c'est quand même extrêmement compliqué cette chose-là. Il y a le son et le geste en ce moment, qui sont deux mots qui n'existaient pas véritablement, en tout cas de ma génération. Le geste n'existait pas, par exemple. On parlait de figure, on parlait de tas d'autres choses, mais ça veut dire quoi un geste? Le geste instrumental, mais le geste instrumental, c'est pas le geste de la composition. Ensuite, le son, qu'est-ce que c'est que le son? On ne va pas commencer à nous dire qu'on découvre le son. Excusez-moi, je vais parler de manière un peu plus personnelle. J'ai deux enfants qui deviennent musiciens professionnels, qui sont en école supérieure. Je peux vous dire que l'histoire du son, ils savent aussi ce que c'est, mais leur façon de voir. On leur dit ton son n'est pas beau, ton son n'est pas ceci, ton son n'est pas cela. Dans Bach, tu n'as pas le bon son. Dans Beethoven, c'est pas ce son-là qu'il faut utiliser. Bon, mes deux enfants jouent des cordes, donc les positions d'archet, les vibratos, le son, ça a quand même toujours existé. Vous me posez une question qui est tellement vaste que j'aimerais y répondre plus longuement. Parce que, en fait, c'est cette bascule progressive qu'il y a dans le timbre. Alors, je vais essayer de résumer rapidement. Effectivement, si on prend quelqu'un comme Bach, on peut se dire que le timbre l'intéressait relativement peu. Il a écrit des œuvres pour lesquelles il n'y a pas véritablement d'indication instrumentale. On peut les réaliser de telle ou telle manière, parce qu'effectivement, le langage des auteurs était plus important et l'écriture était plus importante que la réalisation liée purement à un instrument. Bach, on peut dire encore toujours pour le même, s'il n'avait pas de hautbois sous la main, ben, un violon jouait et puis ça ne changeait pas grand-chose. Au fur et à mesure, on évolue, ça évolue finalement très rapidement. Déjà le 19e siècle, Beethoven est certainement le premier compositeur qui va commencer à écrire au moins certains passages de ses œuvres spécifiquement pour le piano, spécifiquement pour le quatuor à cordes, spécifiquement pour l'orchestre. Par exemple, la 3e symphonie est absolument flagrante pour ça. Il y a vraiment un changement chez lui qui est radical, c'est-à-dire que déjà composé pour un effectif instrumental sous-entend une stratégie. Il y a, de toute façon, chez Beethoven, il y a toujours un stratège napoléonien presque. Hein. Il y a un champ de bataille, la partition devient un champ de bataille. Donc, on commence à prendre progressivement conscience de cette histoire de timbre. Et puis, il va arriver le moment où cette magnifique hiérarchie, hauteur d'abord, et puis durée ensuite, et puis dynamique ensuite, et puis avec vraiment 1, 2, 3, 4, et puis le timbre, cette hiérarchie va s'effondrer au cours du 19e siècle, et non pas au 20e siècle, comme tout le monde le dit, parce qu'après tout, le prélude de l'or du Rhin, c'est un prélude qui est basé sur tout, sauf la hauteur, parce que la hauteur, c'est un accord de mi bémol majeur, la question de la hauteur est réglée pendant 4 minutes, c'est tout le reste qui va servir. Qu'est-ce que c'est que le registre? Qu'est-ce que c'est que la vitesse? Qu'est-ce que c'est que la dynamique? Etc. Qu'est-ce que c'est que le timbre de l'orchestre? Et justement, on commence à rentrer dans quelque chose qui n'est plus, si on parle simplement du timbre, qui n'est plus un composant, mais qui est un composé. Et c'est une boîte de Pandore que l'on ouvre. Et à partir de ce moment-là, donc à partir du moment où les paramètres sont, j'allais dire, mis à égalité, tel compositeur va favoriser plutôt la hauteur, tel compositeur va favoriser plutôt le timbre. Encore une fois, un exemple très simple, Schoenberg, dans le Pierrot Lunaire, parle finalement que de hauteur, parce qu'il reste assez traditionnaliste, parce qu'il veut créer un nouveau langage de hauteur. Si vous prenez Stravinsky, qui est, Dieu sait, très attaché à une tradition de hauteur, le Sac du Printemps, au niveau des hauteurs, c'est pas très intéressant à analyser. En revanche, tout le travail sur les durées, les intensités et le timbre, vu cette fois en orchestration, c'est une porte qu'il a ouverte, d'ailleurs, je pense, malgré lui, est complètement différent. Donc, à partir du XXe siècle, on va avoir des entrées extrêmement diverses sur la musique. Alors la musique, effectivement, je crois que j'avais un livre de solfège quand j'étais jeune, il y avait des questions de théorie, c'était Elle donne, je ne me rappelle plus quel était le prénom de la personne. La musique est l'art des sons. Bah oui, alors maintenant on dirait la musique est l'art du son. Qu'est-ce que c'est le son? Ça peut être plein de choses, le son qui va être vu par un Tibétain, c'est une chose, le son qui est vécu par quelqu'un qui fait de la musique baroque en est une autre. Bien sûr, on essaie de dire qu'on va travailler dans des globalités sonores, mais... Je dirais, moi, qu'il faut faire attention à plusieurs choses. D'abord, on développe actuellement énormément de modes de jeu. Une fois qu'on aura fait le tour de tout ça, on va s'arrêter parce que, bon, on aura vu tout ce qu'on peut faire comme... avec une clarinette, avec un machin, avec un... Enfin, tout ce qu'on veut. Donc, bah, il va falloir aussi retourner un moment à une pensée sur des questions de vocabulaire qui sont un peu plus complexes et puis qui doivent être liées à des choses plus abstraites aussi. Parce que dans le son, il y a aussi une construction qui peut être abstraite. Le son, après tout, construit par Weber, est aussi un son. Je reste, moi, j'avoue, dubitatif. Il y a à la fois quelque chose de très concret, qui est très sympathique, parce qu'il y a une collaboration, un travail, il y a une extension de l'utilisation des instruments. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a, à mon avis, quelque chose qui est un peu plus distant. Non pas par mépris, encore une fois, mais parce qu'il y a une conception qui peut être purement au-delà de la manipulation et de la tablature. Ça, c'est le danger qui guette un petit peu des générations actuelles. Comme nous étions guettés par le fétichisme de l'écriture. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas mieux, pas moins bien. Hein. Voilà. Toute chose étant égale par ailleurs, voilà. Il y a des choses intéressantes, il y a de la sonorité. Après, le son en tant que tel, ça ne s'articule pas, c'est quelque chose d'amorphe. D'ailleurs, un très beau son, c'est très bien. Un deuxième très beau son, c'est très bien. Si tant est qu'on ait réussi à le définir, et ça m'énerve parce que je pense qu'on n'arrive pas à le définir. C'est comme quand avant, on parlait de couleur, excusez-moi, mais la musique, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qu'on entend. Donc, est-ce qu'on est harmonique, inharmonique, tendu, etc. Bon, bref, un très beau son, c'est une chose. Un deuxième très beau son, on est une autre. Articuler un très beau son 1 vers un très beau son 2, c'est très difficile. Un très beau son horizontal et le faire correspondre avec un autre, on peut faire effectivement une espèce de grande polyphonie, dans le sens premier du mot, hein, polyphonose, plusieurs voix qui superposent et qui mènent chacune leur vie, mais qui n'ont aucune relation entre elles, cette fois. Donc, comment avoir des relations entre les sons? Je pense justement à quelqu'un comme Lachenmann nous a poussé à penser à quelque chose d'extrêmement important. Et pour moi, cette chose importante est la suivante. Si on prend l'état de la musique au début du XXe siècle, on rentre dans quelque chose qui est non pas atonal pour moi, mais qui est post-tonal, d'ailleurs, qui a commencé au XIXe siècle. Ça veut dire qu'on rentre dans un espace relatif. où il y a non plus une opposition entre consonance et dissonance, c'est-à-dire en tout cas la dissonance est un moyen d'appuyer la consonance et de la souligner. Il y a donc ce dont Schoenberg a parlé, c'est-à-dire d'une émancipation de la dissonance, et on rentre dans un espace relatif. On est plus ou moins consonant, plus ou moins dissonant. Cet espace-là, qui est le legs donc, enfin, du début du XXe siècle, je dirais qu'au début du XXIe, cet espace s'est élargi, s'est agrandi, et que maintenant, ce n'est plus une histoire de relativité de consonance et de dissonance, mais c'est de relativité de l'espace sonore qui fait que on peut aller de la note la plus pure, si tant est qu'elle puisse l'être, au bruit le plus impur, si tant est qu'il puisse l'être aussi, en tout cas de la chose la plus définissable aisément, notamment par exemple pour ceux qui ont l'oreille absolue, vers quelque chose qui est extrêmement complexe, extrêmement difficile à analyser, qui peut s'analyser par énergie, quelquefois vitesse, densité, granulation, que sais-je, enfin c'est extrêmement complexe tout ça. Et on est à l'intérieur de ce spectre. Ce qui est dommage, à mon avis, c'est d'utiliser qu'une partie du spectre. C'est-à-dire, je pense qu'il est très difficile de n'être qu'un compositeur de notes, comme je l'ai été, moi, par exemple, dans les années 80, et ce que je n'ai plus envie d'être, et puis d'être uniquement un compositeur du bruit, parce que c'est comme si, un peu, on voulait faire que de la consonance d'un côté et que de la dissonance de l'autre, ce qui est absurde. Je pense qu'on a un spectre large, et c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est ce que nous ont appris, d'une certaine manière, les musiciens spectraux, et moi j'étais réservé par rapport à cette musique, mais ça c'est autre chose, j'ai pas le temps de m'expliquer là-dessus, mais je pense que c'est le legs, par exemple, de toute la pensée de Lachenmann, qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on a ce spectre sonore qui est très intéressant. Lachenmann, on parle toujours de Lachenmann, il y a toujours un compositeur qu'on oublie, moi je trouve extrêmement important, qui est Hans Holliger, de ce point de vue, qui a fait aussi un travail extraordinaire qu'on n'a pas assez écouté, on l'a trop relégué comme un post-post-post-sériel, ennuyeux, etc. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je pense déjà, avec des auteurs comme cela, avec Gérard Vizet, qui était bien au-delà du pur spectralisme, on peut obtenir quand même des exemples extrêmement intéressants de langages qui sont pas auto-centrés sur un monde comme ça qu'on bricole, ce qui est le danger, je pense, actuel.